Bonjour, frères et sœurs. Et ce Dieu que nous louons, le Créateur, le Tout-Puissant, il s'est adressé à nous. C'est sa parole que nous lisons. Et comment Dieu a procédé pour écrire sa parole? Bien, il a utilisé des prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament par la main des apôtres aussi. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est pour s'adresser à son peuple. Il le fait en utilisant leurs mots. Donc, quand, par exemple, le prophète Jérémie parle, c'est vraiment Jérémie qui s'adresse au peuple. Mais ce qu'il présente, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a un miracle qui s'est passé là, où Jérémie a intentionnellement voulu s'adresser au peuple, lui a donné ses paroles d'encouragement, d'exhortation. Je parle de Jérémie, mais tous les prophètes, ça fonctionnait comme cela. Mais à travers eux, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Lorsque David écrit les psaumes que nous chantons encore aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Lorsque nous pensons à un prophète, nous avons souvent en tête l'annonce de choses futures. Quand on dit que quelqu'un parle de prophétie, c'est pour annoncer l'avenir. C'est vrai, il y a ça. Mais il y avait aussi un message qui était très actuel pour le présent. Il y avait une implication dans la vie du peuple de Dieu. Par exemple, pour pousser à adorer Dieu, comme nous venons de le faire. Apprendre à connaître Dieu davantage, à être encouragé, être repris parfois, ramené sur la bonne voie. Et Luc nous présente, on est en train d'étudier l'Évangile de Luc dans le Nouveau Testament, mais Luc nous présente le dernier prophète, en fait, de l'Ancien Testament, qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste arrive comme à la croisée des deux alliances, la fin de l'Ancien et le début du Nouveau. C'est comme s'il était sur le seuil de la Nouvelle Alliance en Jésus. Et Luc, nous l'avons déjà vu, il présente Jean-Baptiste, qui est d'abord annoncé par un ange. L'ange vient annoncer à Zacharie qu'ils vont avoir un fils. Et Zacharie est surpris de cela, même incrédule, parce que sa femme est rendue beaucoup trop âgée. Mais ça se passe exactement comme l'ange l'avait annoncé. Et son épouse, Élisabeth, devient enceinte. Ils ont un fils qu'ils appellent Jean. Et ce fils est rempli du Saint-Esprit, même alors qu'il est encore à l'intérieur du ventre de sa mère. Et il tressaille lorsque Marie vient et qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui a rempli Jean, reste sur lui pendant toute sa vie. Et le ministère de Jean est conduit par le Saint-Esprit. Et on voit Jean-Baptiste, on n'a pas une grande description, mais on voit que dans sa jeunesse, il grandit en esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il se forme, qu'il grandit en sagesse. Et on voit qu'il se retire aussi plus tard, sans que Luc nous donne les raisons, mais il se retire au désert. Et on comprend que ça fait partie de sa formation. Et on arrive maintenant au moment où est-ce qu'il commence son ministère, et Luc nous fait un résumé, en fait, du ministère de Jean-Baptiste, où il annonce un peu ce qui va arriver dans l'avenir, mais où il y a un message qui est très, très actuel pour les gens de l'époque, pour les Juifs qui l'entendent, et qui, finalement, est aussi actuel pour nous. Donc, tournez avec moi dans l'Évangile de Luc, chapitre 3. On est rendu au chapitre 3, verset 1. On va commencer seulement par les deux premiers versets. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Si vous avez lu dernièrement des prophéties dans l'Ancien Testament, vous voyez que ça ressemble étrangement à cela. À telle époque, sous tel roi, tout à coup, Dieu s'adresse à un prophète et s'adresse à son peuple. La parole est présentée. Ici, on a quelques détails qui nous situent dans l'histoire et c'est vraiment à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. On parle de... Mais on a lu précédemment, à la naissance de Jésus, c'était César Auguste qui régnait, qui était empereur de l'Empire de Rome. Donc Auguste César était empereur romain. C'est lui qui avait ordonné le recensement dans tout le royaume. Et c'est pour ça que Joseph et Marie ont dû se déplacer jusqu'à Bethléem, là où Marie a accouché. Et à l'époque d'Auguste César, en Judée, sur toute la Palestine, régnait Hérode le Grand. Bien, il est appelé Hérode le Grand, mais il n'était pas très grand dans sa pratique, il était très cruel. C'est lui d'ailleurs qui avait ordonné la mort de tous les bébés de moins de 2 ans, ou de 2 ans et moins, parce qu'il avait entendu dire qu'un roi des Juifs était né. Donc, c'est Hérode le Grand qui a fait ce grand massacre, et il a passé à l'histoire pour cela. Donc c'était sous l'empereur César Auguste, à la mort de Hérode le Grand. Donc pendant l'enfance de Jésus et de Jean-Baptiste, Hérode tout à coup est mort. Et César Auguste a vu que le territoire qu'il laissait libre, Hérode, et il l'a remplacé par ses trois fils. Donc il a séparé le territoire en trois. Il y avait Archélaus qui régnait en Judée, là où se trouve Jérusalem et Bethléem. Hérode, qu'on connaît ici, qui est en fait le fils, Hérode le fils, en Galilée, donc au nord de la Judée, et leur frère Philippe en Iturée, qui est encore plus au nord. Donc les trois fils de Hérode le Grand qui régnaient, qui se partageaient le territoire. Mais le Hérode en question qu'on va voir dans le passage aujourd'hui, qui est Hérode le fils, je voulais vous parler d'Archélaus. Archélaus, qui était dans le territoire où il y avait le temple à Jérusalem, était tellement cruel qu'il n'a pas duré très longtemps parce qu'il a semé le désordre en Israël et parmi les Juifs. C'était tellement le désordre que finalement, le César, qui était à l'époque Tibère, il s'est tanné et il a destitué Archélaus. Puis finalement, il a envoyé un gouverneur à la place. Et il y a eu pendant plusieurs années une série de gouverneurs jusqu'à l'époque de Jésus et de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez quel gouverneur était en place? Pilate, c'est ça. Donc Pilate régnait, dirigeait la Judée vraiment comme un représentant de Rome sur place. Mais on comprend un peu le contexte à l'époque où les Juifs avaient vécu beaucoup de persécutions et continuaient à en vivre. À cette même époque-là, c'était César Tibère qui était empereur de Rome. On apprend aussi que Caïphe était le souverain sacrificateur. C'est lui qui était à la tête responsable de tous les prêtres juifs au temple. Anne aussi était là, mais il n'était plus en fonction officielle. Donc, il devait être beaucoup plus âgé. C'est Caïphe qui avait pris la succession. Mais il est encore appelé souverain sacrificateur comme un titre honorifique. Sacrificateur honoraire. Tous ces détails-là, on peut se demander pourquoi ils sont donnés, mais c'est pour situer justement la venue de Jean-Baptiste, le prophète, dans l'histoire. La parole de Dieu, lorsqu'elle est adressée au peuple, elle est toujours datée. Ce n'est pas une parole en l'air qui provient d'on ne sait où. C'est vraiment la parole de Dieu qui intervient à un moment précis dans l'histoire où il s'adresse à son peuple dans son contexte particulier. Et là, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Puis tout ceci va conduire à la venue de Jésus-Christ. Donc, en même temps, Luc est en train de situer la venue de Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité. Et c'est l'événement le plus marquant dans l'histoire de l'humanité. Même aujourd'hui, nos calendriers sont basés sur cette date-là. On date toute l'histoire, en fait, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc, c'est important, c'est un fait historique. Donc, il va y avoir le ministère de Jean-Baptiste suivi du ministère de Jésus qui, finalement, donne sa vie, meurt sur la croix, ressuscite. Luc le présente comme un fait historique, même si ça semble invraisemblable pour beaucoup. Il remonte au ciel auprès de son Père où il est honoré, glorifié, où son Père lui donne toute autorité pour finalement un jour revenir. Mais les événements de la venue de Jésus sur terre sont montrés vraiment comme un fait historique. Et Luc adresse sa lettre à Théophile, mais en fait, Luc avait en tête aussi tous ceux qui allaient lire son épître. Et ce qu'il demande, en fait, au lecteur, ce qu'il nous demande, c'est de croire que ces faits-là sont réellement historiques. C'est important pour la foi d'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui veut devenir chrétien, qui dit croire en Jésus, croire à ces faits-là historiques. Et c'est essentiel. Lorsqu'on adhère à la foi chrétienne, ce n'est pas seulement qu'à une idéologie, une philosophie, à laquelle, intellectuellement, on peut dire « oui, ça fait du bon sens ». On croit réellement que Jésus est venu et qu'il est le Fils de Dieu envoyé sur terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et ça s'est passé à un moment précis, à l'époque de Tibère César, d'Hérode et de Caïphe. Donc, pourquoi Jean-Baptiste et Jésus arrivent à la même époque? On a vu depuis le début de l'Évangile que Ils sont croisés un peu, là. L'ange annonce la venue de Jean-Baptiste. Ensuite, Gabriel, encore le même ange, annonce la venue de Jésus. Jean-Baptiste naît, Jésus naît. Jean-Baptiste grandit, Jésus grandit. Pourquoi les montrer près, ces deux personnages-là? Mais on apprend que Jean-Baptiste est venu et son ministère principal, c'était de préparer la venue de Jésus. Il devait venir juste avant. Continuons à lire à partir du verset 3. Toujours dans Luc 3, verset 3. « Et il alla, Jean-Baptiste, il alla dans toute la région du Jourdain, et il prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. » Donc, on a un détail supplémentaire sur le ministère vraiment de prophétie, le ministère de Jean-Baptiste. Il reçoit la parole de Dieu dans le désert. Il va dans toute la région du Jourdain. Le Jourdain, c'est le fleuve qui traversait la Palestine, qui partait de la mer de Galilée en haut, la mer de Tibériade ou le lac de Génézaret. Ça, il y a plusieurs noms. Mais le Jourdain partait de là et descendait jusqu'à la mer Morte. Et on voit que Jean-Baptiste s'est promené dans toute cette région-là, dans les villes, les villages, mais toujours près du Jourdain. Et les gens venaient à lui en foule. Donc, même s'il n'a pas couvert chaque ville du territoire de la Palestine, les gens venaient à lui. Et le fait d'avoir suivi tout le Jourdain, en fait, il a pu toucher toute la population. Pourquoi près de l'eau? Bien, le texte le dit, c'était pour baptiser, du baptême de repentance. Encore une fois, on comprend que le baptême est le baptême par immersion. Même si ici, la manière de baptiser n'est pas décrite, à chaque fois qu'il y a un détail qui est donné, ça confirme toujours le baptême par immersion. Et c'est pourquoi il était près de l'eau. C'est justement parce qu'il baptisait, les gens descendaient dans l'eau, il les plongeait dans l'eau. Et à l'époque, on connaît que les Juifs, à l'époque, étaient déjà familiers avec le concept d'être plongés dans l'eau, puisque ceux qui voulaient devenir Juifs, qui étaient de d'autres nations, qui étaient des païens, et qui tout à coup prêtaient foi à ce Dieu-là, l'Éternel, ils voulaient devenir Juifs, Israélites, se faisaient baptiser pour symboliser qu'ils renonçaient à leur ancienne vie, qu'ils voulaient être purifiés et maintenant suivre la loi de l'Éternel. Et les historiens même rapportent qu'il y avait plusieurs baptistères aménagés autour du temple pour cela. On les appelait des prosélytes, ceux qui se faisaient baptiser pour devenir juifs. Mais pour quelqu'un qui était déjà juif, ce que Jean-Baptiste annonçait, c'était vraiment nouveau. Il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de nouveau, et les Juifs n'étaient pas familiers avec cela. Jean leur disait pas simplement de laver leurs impuretés. En leur disant de se faire baptiser, il était en train de leur demander, là, vraiment d'avouer qu'ils étaient entièrement corrompus, qu'ils étaient impurs, qu'ils étaient souillés. Mais pour un Juif qui tenait comme précieux le fait qu'il appartenait au peuple de Dieu, qu'il avait la loi de l'Éternel, la Torah, fils d'Abraham, qu'il était dans le peuple saint de Dieu, de dire « tu es totalement souillé » et pour symboliser cela, tu vas te plonger dans l'eau, tu recommences ta vie, tu te repens. C'était vraiment un test d'humilité pour chacun des Juifs, pas seulement pour les dirigeants religieux, les pharisiens, mais pour tout le peuple, c'était quelque chose de nouveau. Le symbolisme était humiliant. Ce n'était pas seulement quelques impuretés, mais ils étaient entièrement souillés. C'est ce que Jean leur dit, en fait. Ce ministère-là de Jean-Baptiste, on a une citation ici, « C'est la voix qui crie dans le désert. » C'était une prophétie d'Ésaïe. Je vais vous demander, tout en gardant un doigt dans Luc 3, d'aller avec moi dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe se trouve après Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» Et l'on répond « Mais que crierai-je ? » Toute chair est de l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix. Jérusalem, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur, pardon. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur, l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent, comme un berger. Il fera paître son troupeau et de son bras il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein et conduira les brebis qui allaitent. Donc, on voit ici une prophétie qui est présentée comme une bonne nouvelle, une consolation. « Consolez mon peuple, dit Dieu. Son combat est terminé. Enfin, je lui donne un soulagement, une paix. Et c'est une grâce qui est annoncée. La grâce pour la faute qu'il a commise. Et il reçoit cette grâce au double de tous ses péchés. C'est vraiment une bonne nouvelle et Israël attendait cela, le salut, la consolation du peuple. » Et il y a une voix qui crie dans le désert pour annoncer cela. Donc, Ésaïe ici annonce qu'il y a un messager qui est envoyé pour préparer le chemin de ce salut. Mais un salut qui est apporté par l'Éternel lui-même, par Dieu. C'est Dieu qui vient sur terre dans Ésaïe 40. Donc, le messager qui est prophétisé, qui va venir annoncer, préparer la venue, c'est pour Dieu qu'il la prépare. C'est fort, soyez... Lorsque Luc rapporte cela, il s'adresse probablement à des gens qui connaissent l'Ancien Testament. Il est en train de leur dire, l'Éternel qui vient, Dieu qui vient sur terre, finalement, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils qui vient. La consolation promise par Dieu, ici, consiste au pardon. Le pardon accordé à Dieu, la fin du combat. Le combat qui est lié avec le fait d'avoir péché. La grâce de l'Éternel promise pour toutes les fautes. Et l'Éternel va venir lui-même pour son peuple. Donc, on voit que c'est une bonne nouvelle. Mais dans le message de Jean-Baptiste, si on retourne dans Luc 3, déjà dans Ésaïe aussi, on voit que cette bonne nouvelle-là était dans un contexte d'une mauvaise nouvelle. Si Dieu a besoin de faire grâce, de pardonner le péché, s'il y avait un combat... C'est justement parce que le peuple se trouvait dans un état de péché. Et Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance, le baptême pour le pardon des péchés. Donc, le message de Jean-Baptiste était vraiment pour le présent. Il s'adressait au peuple qui attendait la venue de Dieu pour le secours, le salut. Mais il leur disait, « Maintenant, voici ce que vous avez à faire. » Repentez-vous de vos péchés. Il dit à partir du verset 7, si vous êtes dans Luc 3, verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, pourtant c'était une bonne nouvelle qu'il annonçait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Alors les foules l'interrogeaient. Ils disaient, mais que ferons-nous donc? Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques, partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers ou des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous? » Et il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandaient, « Et nous, que ferons-nous? » Mais il leur dit, « Ne faites violence à personne, ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Donc, si on résume le message de Jean-Baptiste, qui concerne la situation actuelle des Juifs qui l'entendaient, c'était « Repentez-vous. » Même si c'est le côté négatif qui est présenté en premier. Race de vipère. Vipère, c'est une sorte de serpent venimeux. On comprend que ça devait être un proverbe à l'époque. Les gens savaient de quoi ils parlaient. Mais ça fait référence à la méchanceté, la ruse, la fourberie, ou l'hypocrisie. Pourquoi il les décrit comme cela? C'est parce qu'ils vivent comme s'il n'y avait pas de jugement de Dieu à venir. Pourtant, ils avaient l'Ancien Testament entre les mains. Ils l'étudiaient. À chaque semaine, l'Ancien Testament était lu à la synagogue. Les menaces des prophètes de l'Ancien Testament étaient là. Ils connaissaient qu'un jour, Dieu viendrait pour juger son peuple, juger le monde. Et pourtant, ils vivaient comme s'il n'y avait pas de jugement. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ou à vivre comme si, finalement, il n'y a pas de jugement et de vouloir l'éviter? Puis il leur dit, ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ben, il leur rappelle Dieu, en réalité, il pourrait créer des enfants à Abraham à partir des pierres. Là. Ce qu'il leur dit, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes un descendant d'Abraham que automatiquement vous faites partie du peuple que Dieu vient sauver. Vous ne faites pas automatiquement partie du peuple que Dieu console et à qui il donne sa grâce et qu'il va secourir. Et qu'il va justifier. On peut se poser la même question nous-mêmes aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nous allons à l'Église depuis notre enfance ou depuis de longues années. Et on peut venir à se surprendre à penser qu'on est dans le bon camp, on est dans le peuple de Dieu qu'il déclare saint et juste parce que nous sommes de parents chrétiens. Ou parce que nous allons à l'Église depuis X nombre d'années, ou parce que nous servons. Ce n'est pas automatique. Ici, Jean-Baptiste rappelle quelle est la caractéristique première et essentielle de ceux qui font vraiment partie du peuple de Dieu. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu? Ce sont ceux qui se repentent, qui se sont repentis et qui s'engagent dans une vie de repentance. Ou au fur et à mesure qu'on découvre un péché, dans notre vie, on se repent, on demande pardon à Dieu. Et lorsque malheureusement on retombe même dans un péché, on demande pardon. Mais la repentance devient la caractéristique première de ceux qui sont sous la grâce de Dieu et qui font partie de son peuple. Il leur dit même que les arbres, lorsqu'on regarde une forêt, l'image qui est donnée, c'est que les arbres, les seuls qui vont être conservés, ce sont ceux qui portent des fruits de la repentance. Les autres arbres, même s'ils ont l'air bien solides, qui sont là depuis très longtemps. Jean dit que la cognée est déjà dedans. Donc, l'espèce de tête en métal qu'on rentrait sur l'arbre pour frapper dessus avec une masse après, dans le but de couper l'arbre. La cognée est déjà là, l'arbre va être coupé, il va être jeté au feu pour être brûlé. C'est le jugement qui s'en vient. Les gens étaient touchés de cela. L'enseignement radical de Jean-Baptiste qui s'adressait à tout le peuple, les pauvres comme les riches, les gens instruits comme les gens de peu d'instruction, ils s'adressaient à tous. Et il leur disait tous, vous avez besoin de vous repentir. Les gens ont été touchés. On voit que le Saint-Esprit est venu et s'est servi du ministère de Jean-Baptiste pour qu'ils soient touchés. Ils ont craint Dieu et son jugement à venir. Et ils ont demandé à Jean, que ferons-nous? On peut comprendre que leur demande est vraiment sincère. Et honnêtement, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que ça veut dire de se repentir. Le premier exemple qu'il donne, c'est au verset 11, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. C'est quoi le péché ici qui est souligné? Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs tuniques, d'avoir de quoi manger qui est mal? Non, on comprend que c'est de ne pas aider son frère qui est dans le besoin. Ne pas porter secours à son frère. Tu as de quoi te vêtir, même tu as de quoi te vêtir plusieurs fois. Et ton frère, lui, est nu et tu ne l'aides pas. Tu as de quoi manger et te rassasier. Ton frère, lui, est en train de mourir de faim et tu ne l'aides pas. Aimer son frère, pour le juif, c'était le cœur de la loi de l'Ancien Testament. Même le commandement d'aimer son frère, c'était joint au commandement d'aimer Dieu. Si un juif aimait Dieu sincèrement, il devait aimer son frère. Donc, il le rappelle, c'est la base, la première chose à se poser comme question lorsqu'on dit faire partie du peuple de Dieu ou qu'on veut en faire partie, c'est est-ce qu'on est prêt à aimer les frères autour de nous? Et il leur demande de changer de comportement, en fait. Donc, c'est autant de reconnaître qu'ils ont péché, reconnaître qu'ils ont été égoïstes, mais de s'engager à changer et de réellement la prendre, la tunique qu'il a donnée. C'est des gestes concrets qui démontrent une repentance. Même le mot ici qui est traduit par repentance peut très bien être traduit aussi par conversion. Vraiment un changement où on allait dans une direction et maintenant on suit Dieu, le berger, pour lui obéir. Au verset 12, il s'adresse au péager qui lui pose la question, « Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire pour se repentir? » Les péagers étaient au service de Rome pour collecter les taxes au nom de César. Ils collectaient les taxes qu'ils remettaient et leur salaire était pris à même l'argent qu'ils récoltaient. Mais la tendance était là, c'est très facile d'augmenter les taxes et de s'en mettre plus dans les poches. Et en réalité, tout le monde le faisait. C'était comme naturel. Et même ceux qui détestaient les péagers parce qu'ils savaient qu'ils faisaient ça, s'ils avaient été à leur place, probablement qu'ils auraient fait pareil. Mais Jean leur dit, résistez à la tentation, ne faites pas cela. N'exigez rien au-dessus de ce qui vous a été ordonné. Donc, leur péché, c'était quoi? C'est premièrement la malhonnêteté, mais la cupidité aussi, l'avarice, le désir de s'enrichir. Et c'était pas facile là, ce que Jean leur demandait, mais il leur demandait de changer d'habitude, d'arrêter de faire cela. Et même si César était à des centaines de kilomètres plus loin, qu'il n'était pas toujours supervisé, il devait être honnête. S'ils étaient vraiment un enfant de Dieu. Ça nous parle encore à nous aujourd'hui. Hein? Aimer Jésus, ça signifie ne pas aimer l'argent. Le désir de s'enrichir est très souvent opposé, mais même la Bible nous dit que c'est opposé au désir d'aimer Dieu et de le servir. On ne peut pas aimer nos frères si notre trésor, ce que l'on aime, c'est s'enrichir. Ensuite, les soldats vont voir Jean. On comprend ici que c'est probablement des soldats juifs, des membres du peuple de Dieu, mais engagés par Hérode pour être dans l'armée d'Hérode pour maintenir l'ordre dans le pays. Il leur dit, « Ne faites violence à personne, ne dénoncez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Donc, les péchés, c'est premièrement la violence. Pourquoi plus les soldats que d'autres? Parce qu'ils avaient autorité. Pour faire régner l'ordre, parfois, il faut que tu utilises tes bras, là. Mais c'était très facile pour eux d'abuser de leur pouvoir. Il leur dit, c'est « Repentez-vous de tout abus de pouvoir, de toute violence que vous pourriez commettre, de toute injustice aussi. N'allez pas dénoncer quelqu'un pour qu'il passe dans un procès, qu'il soit condamné s'il est innocent. Même si ça pourrait plaire à votre maître, voire même si ça pourrait plaire à Hérode, repentez-vous de toute injustice et appliquez une justice parfaite. Repentez-vous de toute cupidité aussi, parce que pour un soldat, c'était facile aussi de se faire engager par la population. Il pouvait facilement être corrompu. On pouvait payer un soldat à l'époque pour qu'il se rende un service. Donc, ils pouvaient, en plus de recevoir leur salaire quotidien, avoir comme une surprime en étant engagé un peu comme mercenaire pour faire le travail de la population. Mais lorsqu'ils faisaient ça, très souvent, c'était illégal, c'était caché, c'était malhonnête. Et ce que Jean leur dit, contentez-vous de votre solde. Mais c'est pas facile, ça, de se contenter de son salaire lorsqu'on a des occasions, en faisant des petites magouilles, de gagner beaucoup plus. Et peut-être que dans le métier que vous pratiquez, dans votre profession, il y a des petites passes qui sont faciles. Et la tentation est là. Des fois, ça nous est servi sur un plateau d'argent. Personne ne va le savoir. J'ai seulement à faire un petit pot de vin à quelqu'un et je vais m'en mettre plein les poches. Renoncer à cela, ça coûte cher. En fait, on voit que tous les péchés dénoncés par Jean ici viennent toucher le cœur. Si vraiment vous vous repentez, ce que Jean leur dit, c'est donner tout votre cœur à Dieu. Suivez-le. Même si ça vous coûte cher. C'est ça la vraie repentance. Donc, en résumé, et ça s'adresse autant à nous, ne pas abuser de notre pouvoir, de l'influence qu'on peut avoir sur les gens qui nous entourent, ne contribuer à aucune injustice en tout temps, et finalement d'être content de ce que Dieu nous donne. Ça change tout, en fait. Si on est content du salaire que Dieu nous donne, les biens qu'il nous a donnés, et même si on considère que c'est beaucoup, on va être généreux avec les gens qui nous entourent. Donc, ça touchait vraiment la vie des gens, directement, dans leur contexte. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Mais il avait aussi un message pour l'avenir, à partir du verset 15. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. » Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Donc, Jean parlait avec tellement d'autorité et son ministère était tellement efficace que les gens se demandaient, « Mais écoute, est-ce que c'est lui, le Messie qu'on attend? Est-ce que c'est le Christ? » Jean leur dit, « Non, le Christ, il va venir, il s'en vient. Il est beaucoup plus grand que moi. » Même Jean, qui est montré comme le modèle d'intégrité à suivre, le modèle de consécration, qui a renoncé à tout prestige, même qui se fait détester par plusieurs, qui a renoncé à la richesse, qui a même renoncé à avoir une propriété fixe, il vit dans le désert. Il est comme l'exemple de quelqu'un qui est consacré à Dieu, qu'on pourrait honorer, mais il dit, « Moi, je ne suis même pas digne d'être honoré en comparaison de celui qui vient. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Non, celui qui vient est beaucoup plus grand. Et Ésaïe l'avait prophétisé, en fait, « Celui qui vient est digne de régner même dans nos cœurs, comme on l'a chanté tantôt, une sœur nous a entraîné à le chanter, où tu es digne de régner dans notre cœur. » C'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel qui est venu. Jésus est présenté comme l'éternel Dieu venant sur terre. Alors que Jean baptise d'eau, celui qui vient est plus grand. Il baptise du Saint-Esprit. Le baptême d'eau demeure. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas remplacer le baptême d'eau. D'ailleurs, Jésus l'a pratiqué. Il a ordonné que ses disciples le pratiquent. Ça fait partie, même si ça reste lié jusqu'à la fin des temps, à la repentance. Lorsqu'un homme, une femme se repent, il dit « Je veux suivre le Seigneur », la manière de le signifier, c'est en étant plongé dans l'eau, où est-ce qu'on avoue qu'on était souillé complètement et qu'on a besoin d'être lavé entièrement pour redémarrer une nouvelle vie avec Christ. Mais le baptême du Saint-Esprit qui est annoncé, c'est d'être plongé dans le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas que du symbolisme. C'est celui que Jésus va annoncer plus tard dans son épître, dans son message qu'on lit dans l'Évangile, et qui va venir pour la première fois le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est envoyé à chacun des croyants qui se repent. Et c'est pour le sauver, c'est pour le purifier. Chacun est plongé et le Saint-Esprit lui donne une vie spirituelle et éternelle. Ce baptême du Saint-Esprit est aussi appelé le baptême de feu. Ici, c'est pas facile de savoir qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait dire par là. Il y a plusieurs interprétations. Certains voient que le feu, c'est le feu qui est annoncé, qui va détruire à la fin des temps, comme les arbres sont jetés dans le feu pour être brûlés, ou comme on dit que Jésus va jeter la paille dans le feu pour être brûlé, donc le feu du jugement. D'autres voient plutôt qu'il s'agit du feu purificateur, un feu dans lequel on plonge, par exemple, une pierre qui contient de l'or, on la met dans le feu, et toutes les cochonneries là, vont être brûlées, vont être tassées, et on va pouvoir accueillir l'or pur. Un feu qui purifie, qui enlève les impuretés. Mais je pense qu'il s'agit des deux à la fois. C'est un feu purificateur qui vient dans le cœur, qui enlève les saletés, les impuretés. Donc, non seulement le baptême du Saint-Esprit vient pour nous rendre saints aux yeux de Dieu, nous sauver, mais en plus, il nous purifie. Il rend le croyant capable d'obéir à Dieu, capable de faire ce que Jean-Baptiste a demandé, d'être intègre, honnête, d'aimer Dieu, d'être juste. Mais c'est en même temps un feu destructeur. C'est-à-dire que le feu du Saint-Esprit vient pour purifier chaque croyant, et ça, c'est positif, mais il vient pour purifier aussi l'humanité. Ça, c'est positif pour ceux qui se trouvent dans le camp du peuple de Dieu, mais c'est négatif pour ceux qui ne s'y trouvent pas. Ils sont, dans le fond, le feu purificateur du Saint-Esprit purifie l'humanité en brûlant ce qui est mauvais ou ceux qui sont mauvais. Donc, ça annonce, en fait, le feu destructeur de la fin des temps. Ça annonce l'enfer, en fait. Le feu éternel. Où, c'est tragique, mais où tous les hommes qui ne se seront pas repentis vont brûler pour l'éternité. Et Jésus vient justement pour cela. On dit que Jésus a son vent à la main. Son vent, c'est un peu comme une corbeille qu'on se sert pour secouer le blé, pour séparer ce qui est bon du pas bon. Puis ensuite, on voit que Jésus, il ramasse tout dans son air, il garde le bon blé, et la paille qui est pas bon, qui est pas bonne, est brûlée. Donc, Jean annonce que Jésus arrive, là, et pour Jean, c'était imminent. Ça arrive, et c'est ce qui a touché même les gens. Ils disaient, « Wow, la fin arrive, le jugement arrive. Le salaire positif pour ceux qui se sont repentis arrive, et négatif pour ceux qui ne se repentent pas arrive aussi. » Est-ce que Jean avait tort, parce que la fin du monde n'est pas encore arrivée? Non, Jean avait raison. Celui qui vient sur terre pour sauver et pour juger, c'est Jésus, et il arrivait. Et on va le voir à partir de la semaine prochaine, le ministère de Jésus qui commence. Ce que Jean n'avait pas encore saisi, ça n'avait pas été encore pleinement révélé, c'est que Jésus est venu, mais c'est en deux étapes que ça se passe. Il vient premièrement pour sauver son peuple. Jésus l'a dit, là, je ne suis pas venu ici pour juger, je suis venu pour sauver. Il vient premièrement pour offrir le salut, offrir la repentance. Ensuite, il est mort, ce que Jean n'avait peut-être pas saisi non plus, pour nous sauver, pour donner... Il donne sa vie pour nous, pour payer pour nos péchés. Ensuite, il est ressuscité, il est remonté au ciel où il est glorifié. À la fin des temps, il reviendra pour juger, pour compléter, en fait, son mandat. Mais il y a un écart, et ça fait déjà 2000 ans qu'on est dans cette ère-là, de grâce de Dieu, où Dieu permet à chacun qui entend cette bonne nouvelle-là, il leur donne l'occasion de se repentir. Dans sa patience, Dieu attend que le compte soit au complet. Donc, c'est vrai que Jésus venait pour juger, pour sauver, mais le jugement vient plus tard. Mais dans un sens, le jugement a déjà commencé. Puisque ceux, depuis 2000 ans, ceux qui acceptent Jésus, qui croient, qui se repentent, sont déjà sauvés. Même, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur eux. Et ceux qui rejettent Jésus, depuis 2000 ans, ceux qui le rejettent, sont déjà jugés. Donc, le jugement a comme déjà été inauguré. Mais la phase finale officielle va venir à la fin des temps, où Dieu va faire le tri. Et Jean annonçait cette bonne nouvelle avec beaucoup d'exhortation. Et Luc nous présente finalement le résultat final du ministère, mais pour Jean lui-même. Très souvent, dans l'Ancien Testament, on voit ce qui arrive à un prophète. Non seulement... Le prophète est présenté dans un contexte particulier dans l'histoire. À quel moment que Dieu donne sa parole au peuple? Quelle est sa parole? Mais qu'est-ce qui arrive avec le prophète aussi? Parce que ce qui arrive avec le prophète sert d'illustration, très souvent. Et ici, lisons à partir du verset 19. Mais Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres mauvaises actions, celle d'enfermer Jean dans la prison. Ce n'est pas encore la fin pour Jean. Il va revenir plus tard, on va le voir dans l'Évangile. La fin, ça va être le jour où il va se faire couper la tête. Mais le fait qu'il est en prison, c'est vraiment l'étape finale. On voit comment il finit dans un état de honteuse, le mépris, dans un cachot. Mais ça illustre bien le contexte dans lequel Jean est venu prêcher. Lorsqu'il dit « race de vipère », race d'hypocrite, en fait. Le pays était dirigé par des hypocrites. Et ça influençait toute la population. Heureusement, beaucoup se sont repentis, mais et ça allait jusqu'aux dirigeants. Ici, Hérode n'était pas un juif, mais Dieu avait permis qu'il soit là, placé pour régner sur la Galilée. Et on voit que son influence, finalement, a dépassé, est allée sur le territoire de ses deux frères. La femme de son frère Philippe l'a quitté, et finalement, Hérode l'a pris pour femme, alors qu'elle n'était même pas divorcée. Puis on se rend compte même plus tard dans d'autres récits que tout à coup, Hérode même convoite la fille de sa femme, bien, qui n'est même pas sa femme. Mais c'est vraiment l'immoralité dans le cœur, dans la pratique de celui qui était là, supposément pour régner sur le peuple de Dieu. Comme il était en territoire du pays que Dieu avait choisi, il devait normalement se plier à la loi de Dieu. C'est pour ça que Jean lui fait des reproches. Jean ne va pas faire des reproches à César ou à d'autres. Mais les reproches les plus sévères, il les fait à Hérode parce qu'il est là. Dieu a permis qu'il soit là. Il dirige le peuple de Dieu. Et pourtant, il est en train de le conduire dans la direction du péché. Il est l'exemple à ne pas suivre. Et il le dénonce, mais ça ne plaît pas à Hérode, bien entendu, qui le jette en prison. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait de chaque membre de son peuple, c'est-à-dire de chacun de nous, des prophètes. Notre sœur Marlène, même, c'est son nom de famille, prophète. Mais chacun de nous, nous sommes déclarés être des prophètes pour Dieu. Nous allons par le monde pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile qui contient un élément négatif. Mais ça en fait partie intégrante. Si on fait juste dire qu'il n'y a plus de péché et Dieu, par son amour, a envoyé Jésus mourir pour nous pour que personne en enfer, ce n'est pas l'Évangile exact. Ce n'est pas le vrai Évangile. Le vrai Évangile, c'est que si on n'était pas sauvé, si Dieu n'était pas intervenu, on irait tous en enfer puisque nous avons tous péché. Et si on, en tant que prophète, on annonce le vrai Évangile, on va être obligé de parler du jugement de Dieu qui s'en vient. Et c'est un jugement terrible où ceux qui ne se sont pas repentis vont brûler en enfer loin de Dieu et il n'y aura plus aucune occasion de se repentir. Ça va être terminé. Après la mort vient le jugement. Donc, ça inclut un aspect négatif. Ça inclut, bien sûr, la bonne nouvelle. Quand Jésus, lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, il efface nos péchés. Notre compte est remis à zéro. Et même jusqu'à la fin de nos jours, on est vu aux yeux de Dieu comme saint et on peut entrer dans sa présence pour l'éternité. Mais parce que ça inclut un élément négatif qui vient accuser les gens dans leur conscience, on s'attire inévitablement des ennemis. Et c'est possible, je ne connais pas votre avenir, je ne connais pas le mien non plus, mais c'est possible qu'on subisse finalement un sort semblable à celui de Jean-Baptiste. Qu'on soit même mis en captivité, c'est possible, au nom de Dieu. Et qu'on soit, dans un certain sens, humilié, méprisé et ramené le plus bas possible au niveau des ordures. Qu'on soit, aux yeux de la population, vu comme des ordures, des déchets. Là où ce qu'on doit prendre garde, et ce n'est pas pour rien que Luc le souligne, c'est qu'on ne doit pas juger de la valeur d'un ministère, d'un homme de Dieu, par la fin, mais à des yeux humains. Si on jugeait la fin du ministère de Jean-Baptiste, ici, on pourrait dire finalement qu'il a échoué. Ce n'est pas un très grand prophète. Il finit ses jours en prison. Mais lorsqu'on se place dans la perspective de Dieu, qui a permis à Jean-Baptiste, puisqu'il était rempli de son Saint-Esprit, de persévérer jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a été mis en prison, il n'a pas supplié là, en disant « Ah, je te demande pardon, Hérode, j'aurais jamais dû dire ça à propos de toi. » Non, il tenait le même discours. Finalement, il s'est fait couper la tête. Mais s'il a persévéré jusqu'à la fin, même si aux yeux de la population, c'était honteux ce qu'il vivait, en réalité, il glorifiait Dieu. Et c'est une grande gloire. Et on va pouvoir même louanger Jean-Baptiste lorsqu'on le rencontrera au ciel pour cela, pour sa persévérance. Et tous les prophètes de cette nouvelle alliance qui persévèrent jusqu'à la fin sont dignes d'être honorés et glorifiés. Hier, on était assemblés pour souligner le départ de notre sœur Dilma. Et ce qui est ressorti le plus clairement des témoignages, d'ailleurs, je l'ai connu personnellement aussi, mais c'est sa persévérance jusqu'à la fin. Et malheureusement, elle a subi aussi la persécution. Je ne vous raconterai pas tous les détails, mais elle a subi la persécution dans les dernières années. Clairement parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle prie, parce qu'elle veut obéir à son Seigneur, Les gens l'ont haï et même physiquement, elle a subi des outrages. Ce qui l'a conduit finalement à en mourir. Mais sa persévérance jusqu'à la fin à tenir toujours le même discours et à dire jusqu'à la fin, « Je t'aime, Seigneur Jésus. » Et à le dire à n'importe qui. Même dans les douleurs, elle voulait chanter les louanges de Dieu. C'est tout à la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend un chrétien capable de persévérer jusqu'à la fin comme cela et de mener un ministère de prophétie efficace. Donc, on juge, en fait, un prophète non pas avec des yeux humains et pécheurs, mais avec les yeux de Dieu, qui nous dit que celui qui persévère jusqu'à la fin est digne de louange et est un digne représentant de Dieu sur terre. Donc, le message de Jean, comme c'est notre message aussi, c'est un message de repentance, qu'on doit se prêcher à nous-mêmes aussi quotidiennement. Le jugement de Dieu s'en vient, et il dit même que son jugement commence sur la maison de Dieu. Et on va devoir rendre des comptes à notre Seigneur. Et je ne veux pas avoir à rougir devant mon maître. Je suis sûr que vous non plus, vous ne voulez pas avoir honte devant le Seigneur lorsqu'il va vous demander des comptes. Et c'est dans les petites choses de la vie que Jésus va nous demander des comptes. La manière dont nous sommes honnêtes dans toute la gestion de nos finances, dans toute la gestion de notre temps, la manière dont nous sommes justes dans tout ce que nous disons, disons jamais rien d'à peu près faux ou d'exagéré à propos de quelqu'un. Nous sommes honnêtes dans nos paroles, dans nos actions, nous sommes justes, nous venons au secours de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. C'est la priorité numéro un dans notre vie. C'est vraiment, nous sommes un enfant de Dieu, nous voulons aimer, aider nos frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, c'est l'occasion ce matin de nous repentir de cela, de commencer cette année 2019 sur le bon pied, dans la bonne direction. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est pas seulement une mauvaise nouvelle. À chaque fois que nous nous repentons, d'ailleurs, nous goûtons à nouveau à la grâce de Dieu, qui est seulement un prélude à la grâce qui va être manifeste lorsque Jésus va revenir, lorsque nous allons voir de nos yeux qu'il y a un jugement et que nous sommes épargnés. C'est notre espérance. Contemple mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel.
Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel.